Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir. Vous êtes bien sur IDFM Radio, bienvenue dans l'émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Ce soir, et pour cette dernière émission de l'année 2022, année qui, 100 ans après sa mort, voit fleurir de nombreux ouvrages consacrés à Marcel Proust et à son œuvre immense. Ce soir donc, c'est un grand cadeau que nous allons nous faire, puisque nous avons deux invités, passionnés chacune à leur manière par Proust et qui vont nous éclairer sur cet homme souvent moqué, souvent caricaturé, souvent relégué, évidemment souvent aimé et parfois adoré, voire idolâtré. Si vous faites partie de l'une de ces catégories, vous allez peut-être découvrir la source de votre aversion, de votre indifférence ou de votre passion. Si vous êtes lectrice ou lecteur de la recherche, vous allez sans doute avoir envie d'ouvrir de nouveau ce grand roman après cette émission. Je salue donc nos deux invités, que je remercie profondément. Jocelyne Sauvard, que nous avons reçue il y a quelques mois pour son ouvrage intitulé « Proust à l'ombre des femmes » aux éditions Écriture, un essai-roman très original, apprécié des meilleurs spécialistes. Bonsoir Jocelyne Sauvard et merci d'être avec nous en studio.
Bonsoir et merci de m'avoir invité.
Je salue également Françoise Leriche, professeure des universités, grande spécialiste de littérature moderne et surtout de Marcel Proust, architecte en chef, je mets des guillemets, d'un très copieux volume comprenant 627 lettres de Marcel Proust, une correspondance gigantesque qui s'étale sur plus de 40 ans de la vie de cet auteur, entre 1879 et sa mort en 1922. Correspondance très récemment republiée aux éditions Plon, enrichie de très nombreuses notes et précisions chronologiques et biographiques, à la fois de Proust et de ses correspondants. Bonsoir Françoise Leriche.
Bonsoir, merci à vous.
Et c'est surtout nous qui vous remercions d'être avec nous par téléphone depuis votre université de Grenoble où vous enseignez la littérature. Et merci, nous allons parler de Proust et de sa correspondance dont vous avez été vraiment l'architecte essentiel. Vous allez nous rappeler comment. Je vous propose deux invités, deux personnalités, deux éclairages et évidemment deux histoires d'amour avec Proust. Alors, comment cela s'est-il passé? Comment cela a-t-il commencé pour chacune d'entre vous? On va commencer par Jocelyne Sauvard, qui est ici avec nous. Votre histoire d'amour avec Marcel?
Ça a commencé à l'âge de 15 ans. Chez moi, j'ai trouvé un amour de Proust. Je l'ai lu en rentrant du lycée, je l'ai lu. Ça m'a fasciné, ça m'a beaucoup fait rire. Le petit clan Verdurin m'a amusé. On ne peut pas savoir à quel point ça peut être drôle, cruel, méchant et tellement juste. Parce que des petits clans, on en a plein aujourd'hui aussi, y compris dans le monde littéraire. Et donc, c'était très drôle. Et puis, j'ai enchaîné les jeunes filles en fleurs et ainsi de suite. Et donc, on va dire que depuis l'âge de 15 ans, je lis Proust, je vis avec Proust et j'écris sur Proust, mais pas que sur Proust, puisque j'ai une quarantaine de livres et j'écris sur les grands écrivains, mais aussi des romans tout à fait personnels et du théâtre. Voilà.
Très, très belle définition. Une autre histoire d'amour avec Marcel Proust, Françoise Leriche?
Écoutez, en ce qui me concerne, ma découverte de Proust a été beaucoup moins précoce. Moi, je suis admirative quand je vois toutes ces personnes, tous ces collègues qui disent avoir découvert Proust à 15 ou 16 ans. Moi, je n'ai jamais entendu parler de Proust dans mes études secondaires, je dois dire. Et j'ai découvert Proust, en fait, alors en classe préparatoire, en Cagne, On nous avait fait lire quelques extraits de Combray que j'avais trouvé assez ennuyeux pour ma part, ces grandes descriptions, sans vraiment de personnages. Enfin, j'ai trouvé, j'avais beaucoup de mal à entrer dans ce texte. Et puis, lorsque j'ai fait ma maîtrise sur Ponge, Francis Ponge, comme il parlait beaucoup de Proust pour expliquer ses théories littéraires et du temps retrouvé, donc j'ai commencé par lire Le temps retrouvé, et j'ai trouvé fascinant cette façon dont on pouvait, dans un roman finalement, dans une œuvre littéraire, parler de théorie littéraire, et c'est ainsi par Le temps retrouvé et la théorie littéraire que je suis entrée dans Proust, et à partir de là je me suis mise à le lire jour et nuit, nuit et jour, avec fascination en continu, et là je suis devenue vraiment proustienne et fanatique, si on peut dire, mais c'est vrai que j'avais au moins 23 ans au moins quand j'ai découvert Proust. Donc, toutes les rencontres de Proust ne sont pas forcément précoces.
Ah bah écoutez, on a en effet deux approches, deux personnalités, deux femmes amoureuses de cet homme sous différents aspects. Il y a, dans ma présentation, je disais qu'il y a énormément de Proust, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le détestent, il y en a d'autres qui le... pour qui c'est un truc un peu vieillot, d'autres pour qui c'est le snobinard des années 1900, d'autres pour qui c'est un génie absolu. Toutes ces facettes, alors on va parler de la correspondance, parce que je crois que ces 627 lettres que vous avez sélectionnées, hein, on va parler un tout petit peu avec vous, Madame Le Riche, de l'histoire de cette correspondance que vous avez travaillée avec son architecte principal. Hein. Mais toutes ces facettes semblent être beaucoup plus présentes dans sa correspondance que dans son œuvre. Donc, comment s'est faite cette sélection ? Quel est le corpus connu que vous avez compulsé avec le professeur Philippe Kolb aux États-Unis? Racontez-nous en quelques mots cette histoire et l'histoire de la sélection qui donne lieu à cette publication aujourd'hui de cette édition de la correspondance de Proust.
Oui, alors quelques mots, c'est bien ambitieux de résumer toute l'entreprise de l'édition de la correspondance et de l'anthologie que j'en ai procurée en quelques mots. Donc il faut quand même d'abord ne jamais oublier que l'inventeur, au sens propre du terme, de la correspondance de Marcel Proust, c'est le professeur Philippe Kolb, qui était américain et qui a mené toute sa carrière dans l'Illinois à Urbana-Champaign, une très grande université à 200 kilomètres de Chicago. Et inventeur parce qu'il a trouvé une manière de procurer de façon chronologique, à dater, à noter ces milliers de lettres que Proust ne datait jamais. Et tout le travail, c'est évidemment à partir d'allusions dans les lettres, parfois d'enveloppes, pour autant qu'elles soient conservées, parfois à partir du filigrane même du papier, arriver à deviner à peu près de quelle période datent les lettres. Donc c'est vraiment une entreprise colossale à laquelle il a consacré toute sa vie. Et il se trouve que lorsque j'étais doctorante, il n'y avait pas d'allocation doctorale, donc ou bien nous étions enseignants dans le secondaire, ou bien il fallait trouver autre chose. Et le hasard des circonstances, des rencontres, des candidatures m'ont amené à être l'assistante de Philippe Kolb, à plein temps, dans l'Illinois, 40 heures par semaine, pour l'édition de la correspondance de Proust. Et donc, j'ai trouvé ce travail de détective tout à fait passionnant.
C'est amusant.
Et c'est ainsi que je me suis intéressée de très près en cherchant les informations que me demandait jour après jour Philippe Kolb pour telle ou telle lettre. Comme j'avais ma thèse à faire, je ne suis pas restée un grand nombre d'années parce que c'est quand même très, très prenant comme travail. Voilà, quand on est doctorant, on peut pas, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'on manque de temps. Mais une fois que Philippe Kolb a été décédé, un des projets qu'il avait laissé en attente, c'était de procurer une anthologie de ses 21 volumes, plus de 5000 lettres, pour, je dirais, grand public, public cultivé, étudiant, un volume un peu portatif.
Voilà, c'est ce que vous avez réalisé.
Il fallait environ, de sélectionner 300-400 lettres. C'était absolument impossible. Donc, j'ai repris toute la correspondance en essayant quand même de sélectionner les lettres qui étaient les lettres canoniques, en quelque sorte, les lettres auxquelles on se reporte constamment, qu'on a constamment besoin d'avoir sous la main. Et puis, quelques autres lettres, pas très connues ou inédites, bon, que j'ai ajoutées au volume, de sorte que je suis arrivée à 627 lettres, c'est à peu près 10% de la correspondance connue actuellement. Et finalement, comme c'était des volumes de type omnibus, selon les termes même des éditions Plomb, on m'a laissé cette sélection, parce que j'avais grand peur qu'on m'en enlève une cinquantaine, ou une soixantaine pour réduire le...
Non, elles y sont toutes. Elles y sont toutes, sur 1500 voilà. pages, avec toutes vos notes et les notices biographiques des uns et des autres. Je voudrais laisser la parole à Jocelyne Sauvard, qui voudrait faire une remarque.
Oui, c'est très passionnant de lire... Vraiment, les ouvrages de Philippe Kolb, c'est magnifique. Plus de 5000 lettres annotées, comme vous le disiez. Et d'autre part, c'est extraordinaire aussi le fait que vous ayez pu travailler à ses côtés. Quand Jean-Yves Tadié en parle, on est ébloui. Et en plus, quand il parle de la visite de Philippe Kolb à Paris, c'est pas si vieux que ça. Je ne sais pas si à ce moment-là, vous l'avez vu aussi, mais c'est assez effarant. Et il y a des lettres que vous avez... introduite là dans le gros livre qui s'appelle Lettres.
Correspondance.
Non,
correspondance.
Lettres de Proust. Il y a correspondance, mais c'est une autre universitaire qui s'en est occupée. Et donc là, c'est absolument étonnant parce que moi, j'ai trouvé quand même des trésors en travaillant sur Céleste et Marcel et en travaillant sur les femmes. J'ai trouvé des toutes petites notes, des petites lignes qui devaient être chafouines parce que j'ai vu son écriture et donc qui était absolument extraordinaire. Par exemple, quand Philippe Kolb a eu l'intuition, parce que j'avais travaillé des mois sur Marcel Proust et Marina Linger, y avait-il vraiment un amour, y avait-il juste une amitié? Et quand je tombe sur la petite note de Philippe Kolb, c'est extraordinaire, il a bien deviné à travers les blancs, à travers les points-virgules de Marie Nollinger, qu'en fait elle nourrissait un véritable amour et qu'elle pensait au mariage avec le grand Marcel.
Ça c'est la part de l'ombre des femmes sur Marcel Proust, hein, d'après Jocelyne Sauvard. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Nollinger, une amoureuse
Ah mais je pense que beaucoup de jeunes femmes étaient réellement amoureuses de Proust. Je crois qu'il était très séduisant, outre que à l'époque il s'agissait quand même de faire un beau mariage dans une certaine partie de la bourgeoisie. Donc Proust était certainement le candidat idéal. Et bon, avant qu'il soit véritablement malade et dans son lit, je pense qu'il sortait beaucoup malgré tout ce qu'on a pu dire. Et qu'il était effectivement très, très drôle,
très en vue,
grande culture, bon, il a
et très amoureux.
Proust, je pense qu'il n'était pas amoureux, mais qu'il laissait les flirts se développer autour de lui, parce que d'une certaine manière, ça flattait quand même sa personne.
Oui, mais relisez les passages où il parle d'Albertine, du corps d'Albertine, des seins comme des petits fruits, comme il parle de la carnation, comme on sent très bien qu'il a touché le corps d'une femme, voilà, et qu'il l'a touché, qu'il était amoureux.
Peut-être, sûrement. Oui.
Alors, on va reprendre un petit peu la correspondance, parce que Proust s'est un peu défendu de vouloir voir ses lettres publiées, et il a souvent dit à ses correspondants, ses destinataires, de ne jamais faire connaître ses lettres, parce que il avait une très grande idée de son intimité, de ce qu'il vivait lui-même, et même, je dirais, il y avait un aspect théorique, puisque il faisait une grande distinction entre sa vie personnelle et l'œuvre sur laquelle il travaillait. Françoise Le Riche.
Ah mais oui, il a écrit explicitement qu'il ne voulait pas qu'une seule ligne de sa correspondance soit publiée. Il a même signé des démarches juridiques, mais les personnes auxquelles il a dû s'adresser, bon, nous ne savons pas exactement. Céleste Albaré donne quelques indications sur les avocats ou les amis avec des compétences juridiques auxquelles il se serait adressé, mais je pense que les informations qu'on lui a données étaient fausses, puisqu'on lui a dit qu'une fois qu'une lettre était envoyée, il ne pouvait plus rien du tout. Et ça, c'est complètement faux en droit français. En droit français, c'est faux.
Donc, ça n'a pas très bien marché, en fait. Il a interdit à tous ses interlocuteurs de faire publier des lettres et malheureusement, soit après sa mort, soit dans des ventes, soit au moment de sa vie, il a vu ses lettres publiées.
Eh bien, les destinataires se sont réveillés. C'est, je voulais dire, pardon de vous interrompre, le destinataire, je voulais dire pour nous deux, pour nous trois, pour toutes les personnes qui nous écoutent, se sont réveillés brusquement après sa mort et se sont aperçus que ça rapportait pas mal d'argent de vendre une lettre de Marcel Proust. Alors, si bien qu'on a affaire à pas mal de lettres. Mais moi, je voulais vous faire un compliment parce que vous avez eu l'idée dans votre livre de mettre une lettre exceptionnelle. C'est la lettre qu'il écrit à Zadig, le chien de Reynaldo. Oh, c'est un régal.
Oui, j'aime beaucoup cette lettre. Non, mais je voulais quand même préciser que Proust n'a pas laissé de volonté, de testament disant qu'il interdisait. Parce que s'il y avait des volontés écrites, il y aurait eu un embargo sur la publication des lettres. Et comme il n'a laissé aucune volonté, à partir de là... Donc son frère a essayé de contrôler les choses pendant un certain temps, Robert Proust, mais parce qu'il y avait quand même cette idée que la vie privée appartient, les ayants droit ont un contrôle sur la communication. Mais au début, c'était surtout que certaines personnes ont voulu publier les lettres, non pas chercher forcément à vendre, mais au moins à publier les lettres, parce que je pense que certains amis de Proust se trouvaient un peu gratifiés d'avoir été des correspondants de Proust et que c'était un peu pour leur propre publicité.
Bien sûr. On n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. On va s'interrompre quelques secondes, quelques minutes, pour écouter le genre de musique que Marcel Proust aimait beaucoup. C'est la sonate pour violon et piano de Gabriel Fauré dans son finale, avec Isabelle Flory au violon et Stéphane Spira au piano. On se retrouve dans quelques secondes pour reprendre cette conversation passionnante. Vous êtes bien sûr IDFM Radio dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy. Nous avons comme invité en studio Jocelyne Sauvard et au téléphone l'architecte en chef de la correspondance de Proust, Françoise Le Riche. Nous évoquons avec nos invités cette immense correspondance, un corpus de plus de 5000 lettres. Qui fait l'objet d'une publication aux éditions Plomb, d'une sélection faite par Françoise Le Riche. Il y a plusieurs lettres à sa mère. On sait l'importance de sa mère. Rappelez-nous dans quel état il était vis-à-vis de sa mère. Et Jocelyne nous dira un petit extrait d'une lettre importante.
Alors, avec sa mère, c'était des lettres quotidiennes, 3 ou 4 par jour, puisqu'ils vivaient dans le même appartement. Et quand Madame Proust s'éloignait pour aller au zoo, ou bien quand Marcel s'éloignait pour aller chez des amis, eh bien, il y avait aussi des lettres. Et là, il y a un passage qui est absolument amusant dans sa correspondance. C'est quand Madame Proust lui demande de lui indiquer exactement quel régime il suit pendant son absence. Alors c'est tout simple, elle lui met: cher petit, voici ce que je veux savoir. Levé à, température, déjeuner, dîner, coucher à, voilà. Et Marcel en rit parce qu'il dit, au reste c'était parfois moi qui faisais de même. Pour ma mère, j'avais toujours 4 ans et peut-être avais-je conservé un cœur d'enfant. Hier soir et ce soir, lui écrivais-je, j'ai peut-être supprimé pour m'habiller le 2e caleçon et cette nuit et tantôt, chose infiniment plus difficile, j'ai supprimé dans mon lit le 2e tricot des Pyrénées.
Oui. Voilà, ça c'est un extrait d'une lettre à sa mère. Une autre lettre que j'aimerais que vous nous rappeliez dans quelles circonstances il l'écrit, c'est une lettre à sa mère, Madame Proust. Il se trouve sur un bateau, Françoise Le Riche. C'est à la page 282, hein, plus précisément, de votre
Oui, c'est
volume.
Une lettre qui porte le numéro 150 de cette sélection. Donc Proust a eu la chance d'être invité par Robert de Billy, dont le beau-père banquier, M. Mirabeau, possédait. Et c'est la seule expérience qu'il ait faite d'une croisière sur un yacht au large des côtes normandes. Et il est tout à fait ébloui d'abord par le spectacle, par la vie de yacht, par les paysages que cela permet de découvrir, évidemment, quand on est en pleine mer, de voir les côtes et les paysages marins. Et cette lettre est tout à fait... Alors, à la fois, il est en très bonne santé. Il n'arrête pas de s'étonner auprès de sa mère d'être en si bonne santé, sans oppression.
Ce qui est rare dans ses lettres. En général, il parle plus de sa maladie. Mais là, en l'occurrence, il est en bonne santé.
Oui, oui. Et donc, il regrette que sa mère ne puisse pas être avec lui. Par exemple, jamais je ne pourrais t'exprimer à quel point je te regrette ici, la mer que tu aimes tant, des couleurs qui t'enchanteraient, un air qui n'a rien de celui de la salle à manger, une température qui fait que chacun est blotti dans des châles, etc. Donc, t'ayant vu, enfin bon, et il continue ainsi, donc, à s'extasier sur cette vie de yacht, et même il a demandé les prix, et tu n'imaginerais pas, dit-il, celui-ci, sans compter bien entendu les sommes énormes qu'il coûte, coûte 25 000 euros d'entretien par mois, les mois où il est armé, donc 25 000 francs de
oui,
l'époque,
oui.
Autour de 1900.
Non, mais c'est dire à quel point il est attaché à sa mère. Tout le monde connaît cet attachement à Combray, dans Combray, etc. Et en l'occurrence, sur son bateau, il aurait envie qu'elle soit avec lui. Vous dites dans votre introduction, Françoise Le Riche, que, au fond, cette correspondance, au début de sa vie en tous les cas, a un côté un peu manipulatoire. C'est-à-dire qu'il est assez flatteur auprès de certains de ses interlocuteurs. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu cette facette cachée de l'homme qu'il est, du jeune homme qu'il est ?
C'est-à-dire que Proust a toujours un air courtois, discret, etc. dans le monde, mais en réalité, bon, peut-être à cause de ses ennuis de santé qui font qu'il a toujours été un peu traité, dorloté, etc. chez lui, il y a quand même une volonté d'obtenir ce qu'il veut de tout le monde et de qui que ce soit. Donc c'est vrai qu'il flagorne, bien entendu, un certain nombre, par exemple Robert de Montesquieu, qui a été un homme de la très haute société, de cette société aristocratique, mais en même temps un poète qui avait déjà une certaine notoriété dans la société de l'époque. Donc Anna de Noailles, c'est pareil, qui très jeune est devenue la poétesse en vue de ce milieu. Donc les lettres de Proust sont tout à fait dithyrambiques et flagorneuses, mais à tout instant, quand il demande des choses à sa mère, il dit « bon, bah, tu diras à telle personne, deux points, il donne tout ce qu'il faut dire, enfin tous les éléments de langage en disant, bon, tu mettras ça à ta sauce avec quelques plaisanteries pour montrer que ça, vient, que ça a l'air de venir de toi. Mais enfin, c'est Proust qui a fait toute la lettre, et c'est souvent qu'en fait, il dicte à un certain nombre de ses proches les lettres qu'ils doivent écrire pour lui faire obtenir ceci ou cela. Donc, c'est assez amusant la façon dont il... ce côté tactique, stratégie.
Oui, c'est ça, c'est un stratège. De temps en temps, il en rajoute un peu, hein, notamment auprès de Robert Montesquieu. C'est, ouais.
Mais parfois, il se plaint. Justine notamment de sa mère. L'apparent travail où je me suis remis. Oui. Pardon, hein, je fais attention parce qu'en même temps, il y a le micro, mais il y a aussi les livres et les paperoles.
Voilà.
L'apparent travail où je me suis remis, mais de bien de façon pénible, notamment ceci. Tout ce que je fais n'est pas du vrai travail, mais seulement de la documentation. Il parle de la Bible de Ruskin, de la traduction. Et cela suffit à réveiller ma soif de réalisation, sans naturellement l'assouvir en rien. Depuis cette longue torpeur, j'ai pour la première fois tourné mon regard à l'intérieur, vers ma pensée. Je sens tout le néant de ma vie, sans personnage de roman. Mille idées me demandent de leur donner un corps, comme ces ombres qui demandent dans l'Odyssée à Ulysse de leur faire boire un peu de sang. Voilà, c'est aussi des critiques et des... réclamation qu'il fait à sa mère, qu'il fait travailler à cette biographie
voilà.
Qui en fait l'intéresse.
On va parler de Ruskin maintenant, parce que c'est un moment très important dans l'expérience littéraire de Proust. J'aimerais que vous nous reparliez, Madame Françoise Le Riche. En 1899, il entame justement une traduction très, très importante, et c'est comme une sorte de terrain d'entraînement à ce qu'allait devenir son œuvre magistrale.
Oui. Alors, effectivement, Ruskin n'était pas encore vraiment connu en France dans ces années, fin des années 1890, c'était le début. Et je pense que Proust, à la fois, a été séduit par cette forme d'écriture et cette façon, parce que Ruskin, c'est un touche-à-tout de génie. Il a écrit sur l'art, il a écrit sur l'architecture gothique, il a écrit sur la fondation des bibliothèques publiques, il a des volumes de minéralogie, enfin, c'est un savant dans beaucoup de domaines. Et donc, je pense que cette capacité de passer d'un domaine à un autre devait intéresser Proust, outre la façon dont il ouvre les yeux, par exemple, sur les peintres, les auteurs et autres, les modern painters. Mais en même temps, c'était aussi une opportunité éditoriale. Le traducteur Ruskin, c'était d'une certaine manière gagner une certaine notoriété dans le monde littéraire, puisque ses parents voulaient qu'il fasse une œuvre utile de jeune homme de lettres, plutôt que de la pure fiction qui était à l'époque moins considérée. Donc, avec l'aide de sa mère, qui maîtrisait bien mieux l'anglais que lui, il a ainsi pu traduire, remettre en français, et surtout annoter considérablement. Et par le biais de son annotation, il réfléchit aussi, donc ce qu'on appelle en philologie les passages parallèles. On s'aperçoit qu'un auteur dit la même chose dans différents endroits de son œuvre. Donc Proust fait une sorte de lecture thématique de Ruskin, en montrant que tel élément se trouve dans telle œuvre, mais aussi dans telle œuvre, mais aussi dans telle autre. Donc, oui. Ce qui montre une très grande connaissance de l'œuvre de Ruskin, et en même temps une capacité à établir des ponts, des liens, et donc repérer ce qui est l'imaginaire ruskinien, le style ruskinien, et ce faisant, il met en place...
Il sera quand même très... il sera très influencé quand même lui-même dans ses propres analyses à partir d'une sorte de théorie de l'histoire de l'art que développe Ruskin. Et il sera influencé, selon vous, François de Riche?
C'est difficile de parler d'influence, oui, parce que Proust transforme finalement tout ce qui l'a nourri. Et c'est,
oui,
ça.
C'est ça.
Si vous posiez la question de Snobinard ou Génie à un certain moment tout à l'heure, c'est vrai que finalement, on peut dire qu'il n'invente rien en termes philosophiques ou sociologiques. Beaucoup de choses existent déjà dans les analyses de son époque, mais il transforme. Il a le génie de la transformation, et c'est vrai que... Il nourrit de Ruskin, mais ce qu'il reproche
d'autres
à Ruskin, par exemple, d'être trop spiritualiste, d'être trop fétichiste. Et il s'oppose à Ruskin. Au début, il l'admire, et petit à petit, il s'en détache pour développer ses propres idées à partir de celles de Ruskin. Donc, c'est toujours une sorte d'absorption et de rejet arriver à formuler ses propres idées.
Alors, je voudrais signaler aussi que dans sa correspondance, celle que vous avez sélectionnée, il s'avère être un très grand lecteur et un très bon analyste des œuvres des uns et des autres, aussi bien en poésie qu'en roman. Et notamment, je pense à ces lettres qu'il adresse à Anatole France, pardon, et à Léon Daudet. À propos de Léon Daudet, on voit, et à propos aussi d'Henri de Régnier, par exemple, qui l'admire beaucoup. Françoise Le
Riche. Oui, Henri de Régnier, à l'époque, maintenant, malheureusement, de façon juste, c'est difficile de le juger, mais enfin, était vraiment un des auteurs majeurs de la génération symboliste. Oui. Il a été élu très tôt à l'Académie française. Dirigeait presque en sous-main les choix du Mercure de France, revue symboliste, édition symboliste. Mais c'est aussi quand même La double maîtresse, c'est un roman que Henri de Régnier a publié en 1900, qui est déjà une analyse freudienne de l'inconscient, du traumatisme. Et c'est vrai que ce roman, La double maîtresse, a vraiment marqué profondément Proust, qui a reconnu qu'il y avait une profondeur d'analyse de l'inconscient psychologique chez Régnier, indépendamment de la prose qu'il trouvait un peu tortillée, un peu compliquée inutilement. Mais donc, disons que l'analyse de Proust, lorsqu'il lit un confrère, à la fois, d'abord, ça trace au style, ça c'est vraiment l'élément majeur auquel il s'intéresse, aux figures, à la qualité du style, quel que soit le genre, que ce soit de la poésie, du roman, du théâtre. D'abord, le style, donc évidemment, bien peu trouve grâce à ses yeux, mais il s'intéresse aussi au scénario et à la, je dirais ce qu'on appellerait aujourd'hui le pitch.
Enfin, la dramaturgie, des romans.
Mais c'est vrai que c'est un grand donneur de leçons de style à tous ses amis.
Oui, mais souvent à bon escient, me semble-t-il, notamment à Anna de Noailles, où il est un peu... Là, il est très flatteur auprès d'Anna de Noailles, mais aussi auprès de Fernand Gregg, que vous citez dans ses lettres. J'aimerais qu'on revienne à la vie de Marcel Proust, et notamment en 1903, la mort de son père donne lieu à une lettre à Anna de Noailles, que peut-être Jocelyne Sauvard peut nous dire un mot d'Anna de Noailles et de leur relation entre Marcel Proust et cette dame qui est poète. Et il écrit une lettre vraiment très, très touchante à Anna de Noailles.
Oui, ils ont une relation très ténue. Et il rencontre Anna de Noailles quand elle a 20 ans. Elle fait déjà partie de l'Académie française. Elle est poète. Et puis, ils deviennent intimes. Eh bien, pourquoi? Parce qu'ils ont un lien, la poésie, la beauté, le goût de l'esthétique. Et puis aussi, ils ont autre chose, ils ont la maladie. Et Anna de Noailles a fait couvrir sa chambre de Liège de façon à avoir un peu de calme. Et elle conseille à Marcel d'en faire autant. Alors, ils sont très liés par cette maladie. Ils en parlent très souvent à travers des lettres. Et puis, d'autre part, Marcel se confie beaucoup sur ce qu'il va écrire, notamment quand il a commencé vraiment à entrer dans la recherche du temps perdu côté femme, justement avec Albertine. Il se confie à Anna. Et d'autre part, il lui pose des questions. Pour vous dire que ma première lettre était une fait, je crois que je n'y ai pas parlé de la pièce la plus prodigieuse comme poésie et comme style, Les plaisirs des jardins, c'est l'œuvre qu'elle a écrite. On est un peu boiteux de dire des mots comme style en parlant d'une femme mage, à tout instant aussi, avant les secrets de la création. Alors donc, ils se parlent de leur style et effectivement, comme vient de le dire Claude, le style était essentiel pour Marcel et il en a énormément parlé. Et d'autre part,
oui,
avec
j'aimerais qu'on vienne à la lettre qu'il écrit à Anna de Noailles, à la mort de son père, en novembre, je crois, 1903, ou tout début décembre 1903. Françoise Leriche, pourriez-vous...
Moi, je ne peux pas la citer de mémoire, je ne l'ai pas...
Oui, ben je l'ai sous les yeux.
Voilà,
ah, ben voilà, parfait.
Oui. Donc, il dit, papa avait une nature tellement plus noble que la mienne. Moi, je me plains toujours. Papa, quand il était malade, n'avait qu'une pensée, qui était que nous ne le sachions pas. Voilà. Et donc, il dit que, bien sûr, jusque-là, son bonheur était de vivre entre papa et maman, sans trop se poser de questions, finalement. Et que désormais, quelque chose est rompu dans l'existence et dans l'équilibre de la famille. Mais c'est vrai qu'il a ce côté... Bon,
alors, ce qui est très touchant, pardon, je vous coupe parce que je reprends cette lettre. Ce qui est très touchant dans cette lettre, c'est qu'il avoue que le dimanche, enfin, autant il était proche de sa mère, autant avec son père, il y avait une certaine distance. C'était sans doute très fréquent à l'époque. Et cette distance, il la vit comme une sorte de trahison qui le rend un peu coupable. Et le dimanche précédent la mort de son père, son père qui était médecin, on le rappelle, il est mort d'une attaque cérébrale, et il dit, mais on a eu une discussion politique très vive.
À propos de Dreyfus,
sans doute. Et donc il a une sorte de culpabilité dont il témoigne l'importance à Anna de Noailles. Françoise Leriche.
Oui, bah écoutez, là, je ne connais pas toutes les lettres par cœur et je ne retrouve pas ce passage précisément.
Ah bah si, il dit j'étais le point noir de sa vie.
Attendez, c'est dans la page 256.
Oui, tout à fait. J'étais le point noir de sa vie, dit-il. Il pense que son père ne l'a pas bien compris, qu'il n'a pas suffisamment aimé son père.
C'est-à-dire que le père de Proust aurait voulu qu'il ait une profession plus stable. Proust avait commencé d'abord des études de droit. Il a été à un moment clerc de notaire ou d'avoué 15 jours, ce qui l'a dégoûté définitivement des carrières juridiques. Ensuite, il a fait deux années de Sciences Po. Il a fait finalement obtenu de son père de faire une licence de lettres avec option philo à la Sorbonne. Donc, étant donné que toutes les carrières que souhaitait son père ne plaisaient pas à Marcel, bon, petit à petit, le père a cédé en disant « bon, pourquoi pas une licence de lettres » avec le but d'être bibliothécaire. Il a passé un concours de bibliothécaire, il a été reçu 3e sur 3, mais le poste qu'il a obtenu au dépôt légal ne lui plaisait pas, soit parce que c'était le dépôt légal et non pas à la Mazarine pour communiquer les livres au public et aux lecteurs. Donc peut-être qu'il trouvait le poste pas assez prestigieux. Il a dit que c'est parce que le dépôt légal, c'était poussiéreux, que c'était mauvais pour son asthme. Donc c'était peut-être une raison également possible. Mais enfin, à partir de là, il a décidé de ne jamais occuper son poste. Et il a fini par missionner. Donc évidemment, pour un père de famille comme Adrien Proust, qui était un self-made man, qui avait été boursier, qui avait gravi tous les échelons dans la carrière des études, jusqu'à une position très, très en vue, on peut comprendre qu'il était déçu par le fait que son fils ne voulait qu'être écrivain d'imagination et non pas occuper un poste en vue ou un poste notable dans une administration comme les affaires étrangères, par exemple, ou le droit.
Alors, on va être obligé on va être amené à s'interrompre quelques minutes pour écouter un peu de musique, puisque on parlera ensuite de la recherche du temps perdu. Hein, c'est le roman de Proust, celui qu'il a écrit toute sa vie, en quelque sorte. On va écouter ce qui pourrait s'apparenter à la fameuse sonate de Vinteuil, un compositeur qui l'a inventé. Et c'est en l'occurrence César Franck, la sonate pour violon et piano que nous allons entendre par Stino Francescatti au violon et Robert Casazzu au piano, un enregistrement de 1947. Ça nous amène pas très loin de Proust. Voilà, vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy et nos invités, nos trois invités. On a Marcel Proust qui est l'invité et puis Jocelyne Sauveur qui est avec nous en studio et Françoise Leriche qui se trouve au téléphone depuis son université à Grenoble. Nous parlons de la correspondance et j'aimerais vous demander comment se croise à la fois la correspondance, qu'est-ce qu'elle révèle de l'œuvre et est-ce qu'on peut aller directement considérer la correspondance comme une œuvre à part entière de Proust?
Mais oui, vous me faites un grand plaisir avec cette hypothèse parce que j'ai toujours considéré, ce qui n'est pas très orthodoxe, la correspondance comme une œuvre à part entière qui entretient des liens avec l'œuvre fictionnelle publiée, mais qui a sa propre cohérence. Donc, je serais tout à fait prête à dire qu'il y a une œuvre épistolaire proustienne avec la qualité de son style d'écriture, de ses idées. Et on voit aussi un Proust qui n'est pas le Proust de l'œuvre, un Proust politique notamment.
Oui, à propos de l'affaire Dreyfus, où il est extrêmement présent.
Mais pas seulement,
Pas seulement.
Pendant la guerre aussi.
Pendant la guerre de 14. Il avait prévu même qu'on aurait une seconde guerre mondiale. Donc c'était un homme qui était très proche de la politique.
Il fait aussi, il élabore au fur et à mesure, et on le voit dans cette correspondance de manière très précise, il élabore une sorte de théorie de la fiction, une théorie du roman, Françoise Leriche.
Oui. Proust n'est pas, contrairement à ce que certains pourraient croire, un auteur qui raconte sa vie de façon comme une confession ou de façon un peu bavarde. Non, il utilise certains éléments comme tout auteur de sa propre vie, mais au service d'une œuvre et au service d'une démonstration esthétique en quelque sorte et théorique. Par exemple, montrer l'importance de l'intuition, de l'instinct dans les relations humaines, dans les dans l'art aussi. Donc, il y a des éléments de théorie qui le disséminent ça et là, selon les correspondants.
Et notamment, ce qu'il avait marqué à propos de Sainte-Beuve, c'est que l'auteur et l'homme sont deux choses différentes. Et dans une très, très intéressante lettre à Jacques de la Cretelle, en avril 1918, il insiste vraiment pour dire que La Recherche n'est pas un roman à clé. Jacques de la Cretelle devait le solliciter pour lui dire, mais finalement, qui c'est ces gens-là, c'est Charles Lus, c'est Verdurin. Et tout ça. Non, non, il dit que tous les personnages sont inventés.
Et du reste, il a besoin de le dire à Jacques de la Cretelle, mais aussi à d'autres personnes, par exemple à Laure Aymon, qu'il a aimé d'une certaine façon, et qui était très très fâché contre lui après ces années d'amitié, d'amour, etc. Il a été obligé de le faire comprendre, donc il a écrit à Jacques de la Cretelle. Mais non, un personnage a une douzaine, une centaine de modèles. Ce n'est jamais du témoignage que j'écris, je traduis en mots d'aujourd'hui. Et effectivement, il ne s'intéressait pas au témoignage, c'était un créateur, il s'intéressait à la sensation, et son écriture, c'était reproduire, faire goûter la sensation.
Françoise Leriche.
Oui, et par exemple, une lettre très importante aussi est celle qu'il a adressée à Henri Guéon. Peu de temps après un article assassin d'Henri Guéon dans la NRF du 1er janvier 1914 en disant « c'est une œuvre de temps perdu, Monsieur Proust a tout son loisir, il nous fait perdre notre temps, etc. » Bon, évidemment, à la recherche du temps perdu, c'était un peu facile. Et Proust explique un peu son esthétique. Il dit non seulement qu'il utilise beaucoup d'expériences humaines ou esthétiques pour créer une personne, il prend des traits de plusieurs autres personnes pour créer une église, des traits de plusieurs églises, mais il dit aussi, par exemple, des choses tout à fait auxquelles on ne prête pas attention. Jamais un de mes personnages ne met une cravate ou ne ferme une porte ou ne ferme une fenêtre. Bon, voilà. Et c'est vrai que chez Proust, à la différence de bien des romanciers qui écrivent des gestes banals sans raison, Proust dit que chacun des éléments qu'il décrit sont significatifs et qu'il y a évidemment une esthétique particulière du personnage ou du geste effectué.
Il répond justement à Henri Guéon avec un humour absolument assassin, je dirais, mais très 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 délicat, avec une intelligence remarquable. En effet, il y a deux lettres, la 371 et la 373, où il évoque justement un article de Francis Jammes qui a énormément apprécié tout ce que Guéon critique.
Oui, c'était une lettre privée, en l'occurrence, de Francis Jammes. Donc, il dit évidemment d'aller chercher des certificats auprès de poètes que j'admire. C'est peut-être un petit peu snob ou maladroit, mais enfin, si vous aussi vous admirez Francis Jammes, alors mettez-vous d'accord avec les appréciations qu'il m'a envoyées. Mmh. Oui, donc, il y a deux lettres à Guéon, une le 2 janvier, une le 6 janvier 1914. Mais celle du 2 janvier est vraiment extraordinaire.
Alors, il y a un épisode, évidemment, que tout le monde connaît, c'est l'histoire du prix Goncourt et du refus par la NRF sous la pression d'André Gide. Et ça, c'est évidemment une blessure pour Marcel Proust. Mais ce que Céleste Albaré définissait comme le faux moine André Gide. Il y a une relation très, très spéciale entre deux. Hein.
Entre Céleste Albaré et Marcel ?
Non, entre André Gide et Marcel
André
Proust.
André Gide et Marcel Proust, oui, c'est une relation qui est assez fausse.
C'est une surtout relation, il y a une erreur. Françoise Leriche, il y a une erreur profonde et il s'en veut toute sa vie, le Gide.
Enfin, oui, il fait semblant.
Mais vous savez, c'est assez confus cette histoire du refus du volume de Proust en 1912, parce que Gide en a pris ensuite la responsabilité. Mais il semblerait que ce soit plutôt Schlumberger qui ait refusé. Bon, Schlumberger faisait partie du comité de lecture de l'ANRF. C'était aussi un financeur important du petit groupe. Donc, il n'y a pas de compte-rendu de cette réunion. Donc, on ne sait absolument pas ce qu'ils se sont dit, qui a dit non, on ne va pas publier Proust. Mais apparemment, il est toujours fourré chez les Duchesses. C'est quelqu'un qui écrit dans le Figaro. C'est vraiment quelqu'un de la rive droite, enfin un conservateur, pas du tout ce qui convient pour notre jeune NRF. Donc il y avait un côté sociologique à mon avis, et puis bon, moi on ne m'empêchera pas de penser que d'une certaine manière Gide était peut-être jaloux de Proust. Et
oui,
que,
évident, c'est
il
évident.
Il avait peut-être le désir d'éliminer un potentiel concurrent, parce qu'ils sont de la même génération à 2 ans près.
Bon. Oui.
Jocelyne Sauvard partage cet avis, je crois.
Oui, tout à fait, parce que même dans son journal, on lit des choses qu'il raconte sur Proust, des sortes de rumeurs, des sortes de ragots qu'il a ajoutés. Et après, Marcel Proust n'était plus là pour dire le contraire. Donc voilà, il a probablement certainement beaucoup de jalousie vis-à-vis de l'œuvre de Marcel Proust.
Alors, Marcel Proust parle beaucoup de ses difficultés financières. Avec l'argent, il a une relation un peu ambiguë. Il est à la fois complètement ignorant de ce qu'il possède et il se laisse facilement ruiner, malheureusement, par les aléas de la bourse, non ? Avec l'argent, Françoise Leriche ?
Il adore boursicoter.
Il avait quand même une fortune énorme héritée de ses parents. Parce que bon, dans l'introduction, j'ai fait le calcul actualisé de ce dont il a hérité. C'est quand même des sommes faramineuses
qui
auraient pu lui permettre de vivre tranquillement toute sa vie. Mais en même temps, il a ce côté un peu joueur, gambler, comme disent les Anglais, où il s'imagine qu'en mettant de l'argent à la bourse et en achetant à terme, il va empocher la différence. Et puis évidemment, comme il n'y connaît rien et se fait souvent conseiller par de mauvais conseillers, il perd au lieu de gagner. Donc il s'est vraiment ruiné en spéculant à tort et à travers. Oui.
Il a une exigence personnelle et il ne veut pas s'adresser aux gens riches par son roman. Il voudrait pouvoir s'adresser à tout le monde et ça fait partie de ses rapports ambigus avec l'argent. C'est que il voudrait pas que son livre coûte plus de 3 francs et il insiste auprès de ses éditeurs avec lesquels il a énormément de déboires pour que le prix de ce livre soit accessible à tous. C'est étonnant, non ?
Mais non, je ne trouve pas ça du tout étonnant, parce que à l'époque, il avait eu la première expérience éditoriale qu'il a eue quand il était jeune, Des plaisirs et les jours. C'était un livre très cher, illustré par Madeleine Lemaire, avec des partitions de Reynald Owen. Donc c'était un livre de luxe qui coûtait une très grosse somme d'argent et qui n'a été acheté par personne, sinon quelques souscripteurs riches, mais il en avait donné tellement à ses amis qu'il n'y avait plus beaucoup d'acheteurs potentiels, et c'était une très mauvaise expérience pour lui. Et donc, je crois que ça l'a durablement marqué, et il s'est dit qu'il valait mieux faire des volumes jaunes, moches, bon, à 3,50 francs, ce qu'on vendait dans les gares, plutôt que des beaux volumes très chers qui ne seraient lus par personne. Donc son désir, c'était vraiment d'être lu, quitte à ne pas avoir beaucoup de droits d'auteur, avec cette idée que les gens qui n'ont que 3,50 francs pour acheter un livre, bon, apprécieront sans doute la densité, la qualité de son travail d'analyse, son style, plus que des mondains qui lisent ça de façon superficielle, mettent ça sur leur table à café, bon, qui ne lisent pas en réalité.
Peut-être un mot de Jocelyne Sauvard là-dessus.
Le désir de Marcel Proust, c'était de transmettre à la jeunesse aussi. Donc l'argent n'avait pas d'importance pour lui. Il préférait que les gens puissent lire. Et comme il s'adressait à toutes les couches de la population, depuis évidemment les cuisinières jusqu'aux soldats, qu'il employait toutes les langues du français, depuis l'argot jusqu'au français le plus châtié, il voulait que ce soit son œuvre parvienne et que les gens puissent lire.
Alors, justement, j'aimerais peut-être pour finir notre émission que vous nous disiez l'une et l'autre comment entrer dans cette œuvre gigantesque. Il avait dès sa jeunesse prévu de devenir écrivain. C'était sa seule exigence et le seul sens de son existence dans la vie, me semble-t-il. Comment est-ce que pour celles et ceux qui seraient un petit peu impressionnés par la taille de l'œuvre, comment y entrer, Jocelyne Sauvard, en quelques mots?
En quelques mots, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants ou à d'autres personnes, jeunes ou moins jeunes, ou qui ont du mal à entrer dans la recherche du temps perdu, qui abandonnent, qui se déçoivent de d'abandonner. Non, je dis simplement, abandonner, ce n'est pas grave. Recommencer 10 fois, 20 fois, recommencer plus loin dans l'ouvrage ou lisez-en un autre. Dénicher l'ironie qui va vous faire rire. Et puis, après tout, c'est pas un crime si vous n'arrivez pas à lire la recherche.
Françoise Leriche.
Écoutez, c'est un point de vue possible, mais moi je pense, pour l'avoir essayé de l'enseigner à l'université et vu les réactions des étudiants, que le meilleur moyen de commencer, c'est de commencer par « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », deuxième partie, l'épisode à Balbec. Parce que là commencent à se mettre en place des personnages, des interactions plus romanesques, sentimentales entre notre héros et les jeunes filles. Et tout en mettant vraiment en place, à la différence d'un amour de soi, qui est entièrement la troisième personne, mais en mettant en place un récit vraiment à la première personne fondé sur les impressions, les analyses, les récits de ce personnage, on est vraiment dans l'art de Proust. Et une fois qu'on a accroché, je dirais, à ce personnage et à sa narration, et son rapport au monde, alors on peut revenir au début qui est quand même plus descriptif, plus poétique et qui ne parle pas forcément à tout le monde, du moins à tous les lecteurs de romans. Donc je crois que commencer par la partie sur Balbec est peut-être la meilleure des entrées en manière. Enfin,
surtout il y a l'amour, la jalousie,
bien,
la
très mère. Très bien. Je vous recommanderais aussi de rentrer dans l'œuvre de Proust et avec Marcel Proust dans cette correspondance, dans cette anthologie de lettres. 627 lettres qui sur 40 ans d'existence donnent une véritablement pulsation à la fois à l'œuvre et à l'homme. Un très grand merci Jocelyne Sauvard de nous avoir fait partager, je rappelle le titre de votre livre, Proust à l'ombre des femmes, très original essai roman. Je vous remercie infiniment Françoise Leriche de nous avoir fait passer votre connaissance de Proust dans ce gros volume, 1500 pages, édité chez Plon. Merci d'avoir été au téléphone avec nous. Pour nous quitter, puisque Proust était attaché à certains lieux, vous avez parlé de Balbec, mais on pourrait parler évidemment de Combray et de Paris. On va se quitter sur une musique qui me semble être une réactualisation. C'est Ray Charles qui chante ça, Georgia, un endroit où on aimerait revenir et où on va revenir. C'est peut-être comme ça qu'on va finir. Merci encore Françoise Leriche.
Merci à vous.
Merci Jocelyne Sauvard.
Merci.
Merci à Michael qui a réalisé cette émission que vous pourrez réécouter en podcast sur le site de l'émission, sur Radio IDFM. idfm98.fr à la rubrique podcast. Rendez-vous en début d'année 2023 pour de nouvelles rencontres riches de culture ouverte et qui s'adressent, comme la recherche, à toutes et à tous. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute.